BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
Bienvenue à tous, c'est BFM Bourse, avec Wall Street qui est en train d'ouvrir. Vous entendez la cloche qui retentit à l'instant là-bas à New York. Il est pile 9h30, Wall Street se lève, New York se réveille. Ouais, 9h30, ils sont déjà réveillés depuis un moment, mais voilà, premiers instants de cotation qu'on va vivre bien sûr ensemble avec notre Dream Team. John Plassard, Cité Gestion, est avec nous. Bonjour John, ravi de vous retrouver.
Bonjour Guillaume, bonjour Antoine.
Bien réveillé John, hein, avec Antoine aussi, qui était réveillé très tôt ce matin, dès 11h à l'antenne.
Oh là là.
C'est un peu tôt. Non,
ouais, c'est ça.
Pour investir, c'est tous les jours. Et d'ores et déjà, en podcast et replay, nouvel épisode du jour de Tout pour investir, Antoine.
Oui, absolument, plein de rubriques intéressantes. Bah, notamment, on a déchiffré le dernier baromètre Odoxa Groupama pour BFM Business. Ça ne va pas très fort, hein, le moral des épargnants en ce moment. Le taux d'épargne a encore grimpé, notamment de l'épargne de prudence, parce qu'on est toujours inquiet de voir la situation géopolitique très dégradée qui va mettre du temps à se résorber quoi qu'il arrive. L'inflation qui pointe évidemment le bout de son nez, la situation des taux qui change pas mal de choses dans les priorités des investisseurs. C'était absolument passionnant, on était avec Gaël Sliman, Mireille Wimbert, et puis on a fait un grand débat très très intéressant sur, encore une fois, l'IA SpaceX, en être ou pas, avec Joachim Savigny de Cheval Blanc Patrimoine, et on était aussi avec Benjamin Watson de SoWeFund, et c'était absolument passionnant. Réécouter, ça valait vraiment le coup là ce matin.
Et SpaceX est encore en hausse là, à l'instant, de 5%, on en reparlera dans un instant. Quelle
seulement
est la tendance?
5%?
Seulement 5% de hausse, Antoine.
C'est nul.
Oh. Comment ça se passe à Wall Street, plus largement?
Ça se passe plutôt bien, et bah, on prend les mêmes qu'hier, et on recommence en inversé, c'est-à-dire que c'est la tech qui reprend le lead, hein, plus 0,44% pour le Nasdaq, plus 0,02% pour le Dow Jones, ça nous donne un S&P 500 en hausse de 0,06%, la volatilité est toujours très peu élevée du côté des 16 points pour l'indice VIX, et notre CAC 40, bah, il sent pas trop de direction, hein, depuis l'ouverture, on est vraiment sur des points d'équilibre, plus 0,02%, 8449 points, mais la tech l'emporte là aussi avec une hausse de 0,94% pour l'Euronext Tech Leaders.
John, on a des indicateurs intéressants, on suivra ce soir la Fed, on va en parler dans un instant quand même. Kevin Warsh, ça y est, aux manettes, il tiendra sa première conférence de presse comme président de la Fed. Mais avant, on a un chiffre donc passionnant sur l'état des consommateurs américains. Apparemment, ils vont toujours aussi bien, les ventes au détail supérieures aux attentes à nouveau au mois de mai aux États-Unis.
Oui, tout à fait. On attendait plus 0,5, on a eu plus 0,9, donc quasiment le double. Donc, ça confirme la solidité de la consommation américaine, malgré toutes les incertitudes, et notamment les incertitudes liées à l'inflation. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est la hausse des prix de l'essence qui ont soutenu les ventes dans les stations-service. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça veut dire que les Américains ont continué de faire le plein de leurs véhicules, tout en respectant l'inflation du prix de l'essence. Si on enlève, et ça c'est peut-être un peu plus important, si on enlève le carburant et si on enlève la nourriture dans ses ventes au détail, on a quand même une hausse de 0,7% qui est notamment tirée par les ventes en ligne. Donc on voit que les Américains essayent et continuent d'acheter leurs produits en ligne à travers Amazon notamment. Et la chose peut-être la plus importante, c'est lorsque vous regardez les ventes au détail et surtout les ventes au détail qui sont utilisées dans le calcul de la croissance américaine pour le deuxième semestre, c'est-à-dire dans le calcul du PIB, eh bien, ça a monté de 0,7% après une hausse de 0,5% en avril. Donc, ça veut dire que la croissance américaine est légèrement en train de s'accélérer par rapport à avril. Donc, très intéressant le message pour la Fed, bien évidemment, mais aussi le message pour la croissance américaine. Ça tient malgré les incertitudes au Moyen-Orient.
Oui, effectivement, ça tient. Alors, qu'en dira la Fed ce soir? Donc, première décision de politique monétaire de l'ère Kevin Warsh pour la Réserve fédérale américaine. On sera très curieux de suivre la conférence de presse aussi, voir combien de temps dure cette conférence de presse, parce qu'il a déjà prévenu qu'il n'aimait pas trop communiquer. Alors, on verra. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de Kevin Warsh et de la Fed, John?
Alors, j'enfonce une porte ouverte en disant que il n'y aura pas de hausse ou de baisse de taux ce soir. C'est attendu, évidemment, le statu quo à 100% par le consensus. Ce qui est très intéressant de noter, c'est que historiquement, et on en a déjà parlé très longuement ensemble, Guillaume, c'est que Kevin Warsh était considéré comme quelqu'un de faucon, d'hawkish. Donc cet après-midi, on va voir, enfin ce soir pour nous, on va voir si le ton est Colombe, Dovich ou pas, ou s'il reste sur ses gardes. Et ça, ça va être intéressant. La deuxième chose qu'on regardera, eh bien, c'est les nouvelles projections économiques de la Fed sur la croissance, sur l'inflation et sur l'emploi. Et puis, on va essayer de chercher quelques petits mots, vous savez, notamment sur le fait de la signature ou pas. Imaginons qu'ils ont, la Fed ait déjà anticipé la signature entre les États-Unis et l'Iran, voir si actuellement, eh bien, ça les stresse un peu moins, notamment sur la deuxième partie de cette année. Et puis, au final, on regardera aussi ces fameux nuages de points qu'on appelle les dot plots, afin d'évaluer si la Fed envisage encore des baisses de taux ou si elle va adopter un biais un peu plus restrictif. Donc, plein de choses à apprendre, pas sur la hausse des taux, bien évidemment, ou la baisse, mais vraiment plein de choses à apprendre ce soir et on essaiera de décrypter ça demain, bien évidemment.
Et oui, effectivement, ce sera à suivre et voir comment, effectivement, Kevin Warsh, la Fed, anticipe la suite avec un baril de pétrole qui recule nettement. On est sous les 79 dollars. On attend dans deux jours en Suisse, a priori près de Lucerne, cette signature d'un accord entre États-Unis et Iran. Une liste de 14 points circule qui, ces 14 points, constitueraient l'accord en phase de signature vendredi. Est-ce qu'il y a des surprises dans ces 14 points-là, John?
Ouais, il y a quand même quelques surprises. Alors d'abord, juste pour remettre le décor en place, ce qu'ils vont signer, ça va ouvrir une période de 60 jours de négociation destinée à arriver à un accord définitif. Donc c'est pas l'accord définitif, c'est un accord sur un prochain accord. Ça c'est déjà la première des choses. La deuxième des choses, la surprise, eh bien c'est peut-être le fait que Washington, eh bien, va lever l'ensemble progressivement l'ensemble des sanctions sur l'Iran et autoriser à nouveau les exportations de pétrole iranien et à débloquer les avoirs iraniens gelés à l'étranger. Et ça, c'était vraiment une question qui était très importante. Et cerise sur le gâteau, c'est pour ça que vous avez plusieurs journaux, notamment démocrates aux États-Unis, qui disent que le deal potentiel est un plus mauvais deal que celui qu'avait fait Obama. Eh bien, il y aurait dans ces 14 points un plan de reconstruction économique de l'Iran de près de 300 milliards de dollars. Vous avez bien entendu, 300 milliards de dollars qui seraient mis en place pour soutenir l'économie. Et qui financerait ces 300 milliards de dollars? Eh bien, il y aurait les Américains, bien évidemment, mais aussi les alliés. Alors, difficile de savoir qui sont les alliés, seulement les pays du Golfe ou l'Europe, mais on est dans une situation où, effectivement, il y a quelques petites surprises. Et puis, en face, on l'a dit, bien évidemment, eh bien, l'Iran rouvrirait le détroit d'Hormuz progressivement et puis promettrait de ne jamais développer d'armes nucléaires et accepterait aussi un encadrement de son programme nucléaire dans, évidemment, le cadre d'un futur accord définitif. Mais intéressant, selon ce qu'on entend, alors faut faire attention à tous ces bruits, eh bien, l'Iran ne serait pas d'accord sur tous les 14 points et Donald Trump ne serait pas non plus d'accord sur tous les 14 points. Donc, on est loin d'un accord définitif ici.
On verra dans deux jours donc, si les choses sont bel et bien signées et les choses précises, hein, parce que signer du flou, pourquoi pas, mais est-ce que les choses, est-ce que le texte sera très précis? C'est une des questions en suspens. Donald Trump qui a ajouté tout à l'heure que si l'Iran se comportait à nouveau très mal, eh bien les États-Unis leur balanceraient à nouveau des bombes. Ce sont les termes de Donald Trump, hein, balanceraient des bombes. Dans la tech, on regarde SpaceX, on va en parler dans un instant. D'abord, un petit coup d'OpenAI. Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé d'OpenAI là, dans BFM Bourse. Eh bien, on a appris qu'OpenAI avait dépensé au premier trimestre 3,7 milliards de dollars, John.
Oui, important. Le message très important. D'abord, le montant est important parce que c'est 65% de son chiffre d'affaires qui est de 5,7 milliards de dollars. La deuxième des choses par rapport à cette consommation, je dirais, de cash, eh bien, c'est que c'est la croissance qui reste privilégiée plus que la rentabilité pour l'instant, parce que évidemment, ça montre que OpenAI continue d'investir massivement dans les infrastructures, les data centers, les centres de données, les puces et puis le recrutement afin, bien évidemment, de consolider son avance technique. Et on est dans une situation où les besoins de financement sont toujours plus important malgré la forte progression des revenus, eh bien, la société reste vraiment dans une phase où la priorité, c'est de gagner des parts de marché plutôt que de maximiser les bénéfices aujourd'hui. Donc évidemment, avec une introduction en bourse, on le rappelle, qui devrait valoriser l'entreprise à environ 1000 milliards de dollars, eh bien, il faut vraiment montrer ici, non pas qu'on gagne de l'argent, mais qu'on ne perd pas de part de marché. Et ça, c'est très important. C'est un signal fort pour tout le secteur de l'intelligence artificielle.
Wall Street est en hausse. Après 10 minutes maintenant de cotation, il est 9h40 à New York, le S&P gagne 0,1%, le Nasdaq gagne 0,3% et donc SpaceX, on est au quatrième jour de cotation pour SpaceX. Le titre, à l'instant, John, progresse à nouveau de 2,5% seulement. C'est pas énorme, là, plus 2,5%. Que peut-on dire qu'on n'ait pas déjà dit sur SpaceX? C'est impressionnant, oui, on l'a déjà dit, il y a une forte demande, on l'a déjà dit. Ah oui, peut-être les 17 lock-up, les fenêtres de vente à venir qui pourraient entraîner, attention, d'éventuelles respirations à la baisse pour le coup, John.
Oui, parce qu'on oublie de dire, pas tout le monde qui sait que, en fait, lorsqu'il y a des introductions en bourse, si vous êtes un actionnaire des premiers jours, eh bien, vous ne pouvez pas vendre directement. Et il y a, comme vous l'avez dit, ces fenêtres de déblocage, ces lock-up. Il y en a 17. Alors, quand est-ce que, et c'est ça la question, quand est-ce que les investisseurs qui veulent vendre le titre SpaceX vont pouvoir vendre? Eh bien, les calculs sont différents et difficiles parce que vous en avez 17 de ces fenêtres de déblocage, mais on estime que c'est entre 70 jours et 135 jours, voire plus pour Elon Musk, par exemple. Et puis, il y a aussi des conditions qui sont mises en place, notamment sur la performance du titre, sur le résultat, sur les résultats de l'entreprise, et puis sur certaines spécificités des publications financières. Alors, évidemment, c'est important parce que à un moment ou à un autre, à partir de 70 jours, eh bien, on va avoir des gens qui vont pouvoir vendre s'ils sont pas convaincus ou si ça fait depuis 5 ou 10 ans qu'ils sont dans l'entreprise et qu'ils veulent, comme on dit, cash out, faire un peu de bénéfice sur leur argent. Mais d'un autre côté, on n'oublie pas de dire que on a ces fameux ETF sur le Nasdaq, évidemment, mais aussi potentiellement dans moins de 12 mois sur le S&P 500 qui, va mettre de la pression acheteuse sur le titre. Donc effectivement, on a des gens qui sortent. Mais d'un autre côté, on a des fonds systématiques, et des fonds de pension aussi aux États-Unis et autres qui achètent ces titres parce qu'ils vont faire partie de certains indices.
Oui, c'est Reuters qui nous explique que l'architecture financière de cette introduction en bourse est rodée pour faire en sorte qu'un tsunami acheteur se transforme en fait sur SpaceX en courant haussier permanent. Et vous venez de nous décrire un des mécanismes, même si bien sûr, à un moment, il y aura quand même un jour une correction, ça reste les marchés. Et les autorités de régulation chinoises aussi s'expriment sur SpaceX. Elles appellent à faire attention au battage médiatique autour de la tech en général. Et on a en effet aussi découvert et appris, John, que des Chinois ont pu acheter SpaceX malgré l'interdiction en Chine. Et comment ont-ils fait? Eh bien, ils ont utilisé des cryptos pour acheter SpaceX. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça?
Oui, alors d'abord, il faut rappeler, vous l'avez dit, il y a des restrictions d'accès à certains marchés étrangers lorsque vous êtes en Chine, il y a des contrôles de capitaux, mais vous avez une partie des investisseurs qui se sont dit plus malins que les autres, eh bien, ils sont parvenus à contourner ces barrières. Et notamment, vous avez certains investisseurs qui auraient utilisé des stablecoins, des plateformes d'échange de crypto-monnaies, des courtiers offshore pour transférer des capitaux hors de Chine avant de les convertir en dollars afin d'acheter des actions SpaceX. Alors, évidemment, c'est un défi très fort pour les autorités chinoises parce que ça illustre d'une certaine manière les limites des contrôles financiers traditionnels parce que on a, avec des actifs numériques, la possibilité de déplacer rapidement des capitaux. Mais après, ça devient de plus en plus dangereux parce qu'il faut aller chercher ces capitaux et il est dangereux en Chine de les rapatrier et de les transformer en monnaie locale notamment. Mais c'est possible de le transformer et effectivement, il y a des investisseurs chinois qui ont dû faire un peu d'argent sur l'introduction en bourse. On rappelle juste une chose, Guillaume, pour terminer, eh bien, l'introduction en bourse de SpaceX. En tout cas, le prix d'introduction, c'était 135 $. Et là, on est environ 50% au-dessus du prix d'introduction officiel.
205 $ pour ce titre SpaceX. Et donc, Antoine, des Chinois ont pu acheter SpaceX via des stablecoins malgré l'interdiction en Chine. Voilà.
Même pas besoin d'aller en Chine. Hein. Regardez l'ensemble des produits qui ont été vendus avant l'introduction de SpaceX, soi-disant qu'ils vous vendaient des titres SpaceX alors que c'était des options d'options d'instruments financiers qui étaient sur des blockchains Solana. Bon. Il n'y a pas qu'en Chine qu'on trouve des expédients, mais c'est sûr que pour des citoyens chinois, ça peut éventuellement poser problème vu la relative sévérité des autorités locales.
Oui, très relative cette sévérité. Dans un instant, les réponses aux questions que vous vous posez sur vos portefeuilles boursiers, c'est Culture Bourse, ce sera à suivre dans une dizaine de minutes. Julie Cohen-Hortoin et ses experts vous répondront. N'hésitez pas à nous adresser vos questions sur les actions que vous détenez, par exemple en bourse, en flashant, en scannant le QR code qui apparaît à l'instant sur vos écrans. Bastien Dru nous rejoint, il est 15h46, économiste CPRAM. Bonjour Bastien, bienvenue.
Bonjour.
Vous allez rendre votre verdict là face à ces marchés et avant la fête ce soir. Ce verdict que vous allez rendre, ce moment qu'on va vivre ensemble, est-ce que vous l'assumez?
Ah, tout à fait.
On vous écoute.
Ben pour Kevin Warsh, le nouveau président de la Fed, les débuts vont être très difficiles.
Ah tiens, alors là, voilà, verdict sans appel, ce sera très difficile pour Kevin Warsh ce soir. Pourquoi ce sera si difficile?
Ben, Kevin Warsh a été choisi par Donald Trump pour baisser les taux directeurs. Et il est quand même assez probable que ce soit très difficile pour Kevin Warsh de baisser les taux directeurs sur les mois qui arrivent. Alors, la première chose qu'on pourrait dire, c'est que les décisions de taux directeurs, c'est pas une seule personne qui les prend, c'est un groupe de personnes qu'on appelle le FOMC. Il y a 12 personnes dans ce FOMC, donc Kevin Warsh ne sera que l'une de ces 12 personnes, et probablement elle ne trouvera qu'un seul allié dans ce FOMC pour baisser les taux sur les mois qui arrivent. Donc rien que pour ça, les choses sont un peu difficiles. Ensuite, il y a le contexte macro-financier. On a une inflation qui a quand même accéléré sur les derniers mois. Le dernier chiffre qu'on a, c'est une inflation à 4,2% aux États-Unis sur le mois de mai. Donc voilà, une inflation qui est bien au-dessus de la cible des 2%. Mais surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'inflation, ça fait maintenant 5 ans, ça fait plus de 5 ans, qu'elle est au-dessus de la cible des 2% de la Fed. Donc en fait, la Fed doit faire attention à tout. Tout simplement parce que l'inflation est restée au-dessus de la cible pendant 5 ans.
C'est ça, c'est-à-dire que la hausse des cours du pétrole est venue ajouter de l'inflation à une inflation qui existait déjà.
Qui était déjà relativement élevée, en tout cas au-dessus de la cible. Et ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que la Fed, elle a un double objectif. Elle a deux mandats. Il y a la stabilité des prix et il y a le plein emploi. Et là, dernièrement, les rapports sur l'emploi ont plutôt été bons. Ça fait 3 fois qu'on a un rapport sur l'emploi qui est plutôt pas mal. Et sur les 3 derniers mois, il y a eu des créations d'emplois pour plus d'un 500 000. Et là, l'argument qu'il pouvait y avoir en début d'année de peut-être baisser les taux parce que le marché du travail se tenait pas très bien, il s'est un peu dissipé finalement sur les derniers mois. Et là non plus, il n'y a pas de raison de baisser les taux. C'est pour ça que je dis que pour Kevin Warsh, les débuts vont être difficiles.
Mais non seulement vous n'attendez pas de baisse de taux, mais un statu quo, c'est le pari du marché. Mais est-ce qu'une hausse de taux même serait nécessaire? Hier, Christian Bito nous disait une hausse de taux, c'est pas urgent, mais peut-être que pour les questions de crédibilité, pour asseoir sa crédibilité, Kevin Warsh, c'est quand même sa première décision de politique monétaire comme président de la Fed, ce serait bien qu'il en fasse une, mais une petite, alors pas forcément 25 points de base, allez, 15 points de base.
Non, pour le symbole, pour la crédibilité. J'y crois pas du tout. Il vient d'être nommé par Donald Trump, et si le FOMC remontait tout directeur, on peut imaginer que le lien qu'il peut y avoir entre Kevin Warsh et Donald Trump se romprait quasiment instantanément.
Mais c'est grave.
Comment?
C'est grave,
pour Kevin Warsh, ça pourrait être.
C'est pas agréable, mais est-ce que c'est grave?
On a pu voir ce qui s'est passé sur les dernières années entre Jerome Powell et Donald Trump, et ça serait une situation quand même très inconfortable pour lui. Ce qu'on pourrait dire peut-être aussi, c'est que Kevin Warsh, il arrivait avec une sorte de corpus idéologique qui disait que l'intelligence artificielle allait amener de la désinflation. C'était son gros argument pour dire qu'il fallait que la Fed baisse ses taux. En revanche, ce qu'on peut voir sur les derniers mois, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt que le cycle d'investissement dans l'IA a peut-être produit des tensions inflationnistes. Je pense aux semi-conducteurs. On a les prix à l'importation aux États-Unis qui sont sortis hier. Et en fait, si on regarde depuis le début de l'année, le prix des semi-conducteurs importés par les États-Unis a augmenté de 26%. Donc en fait, ça faisait 40 ans que le prix des semi-conducteurs n'arrêtait pas de baisser, et tout d'un coup, ça a baissé de 26% depuis le début de l'année, et ça a des répercussions sur le prix de pas mal de produits électroniques, comme les smartphones ou les ordinateurs par exemple. Et si on regarde le prix des ordinateurs importés aux États-Unis depuis le début de l'année, il a augmenté de 7% aussi. Donc on voit que finalement, alors que Warsh pensait que l'IA apporterait de la désinflation, on a plutôt eu une petite accélération.
Et alors, il voudrait aussi changer la grammaire de la Fed, moins communiquer, moins de conférences de presse, peut-être la fin des dot plots également, enlever de la visibilité au marché pour rendre à la Fed plus de marge de manœuvre. Est-ce que ça peut être malin ?
C'est quelque chose qui pourrait être fait. Maintenant, quand je vois cette déclaration dans laquelle il dit que il veut pas que la Fed essaye de tout expliquer, ça me fait un petit peu peur, parce que là, on avait quand même une Fed qui expliquait à peu près de façon raisonnable ce qu'elle faisait, sans trop en dire non plus sur son état d'esprit. Donc, c'est quelque chose qui fait peut-être un petit peu peur.
Et pendant ce temps, le pétrole baisse nettement. On est à $79 aujourd'hui pour le baril de Brent. L'Agence internationale de l'énergie a publié ses nouvelles prévisions quant à la demande mondiale en pétrole. Ben, elle abaisse sacrément sa prévision de demande mondiale en pétrole pour cette année. Vous y voyez le signe d'une moindre croissance économique ou d'une décarbonation, d'une transition énergétique accélérante?
Alors, je pense que...
Vous allez me dire les deux, mais en vrai...
Alors, c'est sûr qu'il y a les deux, mais en réalité, c'est surtout l'équilibre de prix qui fait que la demande augmente moins. On a des prix du pétrole qui sont plus élevés qu'en début d'année, donc forcément une demande qui progresse moins. Et c'est surtout de ce côté-là qu'il faut voir les choses, quoi. C'est vraiment cet équilibre de prix qui peut faire que on peut se retrouver avec un surplus d'offres finalement d'ici quelques trimestres.
Alors, cela dit, les cours qui baissent, ça peut peut-être faire nos affaires, nous, en Europe. On voit que les prévisions de croissance sont quand même réduites très nettement, en particulier chez nous en France. Ça peut peut-être nous rendre service.
Bien sûr. Là, pratiquement, la seule raison pour laquelle la prévision de croissance de la France a été abaissée par la Banque de France, et quasiment la seule raison pour laquelle les prévisions de croissance de la zone euro ont été abaissées par la BCE, c'est la hausse des prix du pétrole. Donc, si on a une décrue des prix du pétrole, effectivement, on pourrait imaginer que la croissance, finalement, soit peut-être un tout petit peu plus forte que prévu.
Oui, mais cette baisse des cours du pétrole ira-t-elle beaucoup plus loin que ce qu'on a déjà observé? Là, on est à $79 le baril. Patrick Pouyanné, le patron de Total Energy, répondait tout à l'heure aux députés. Il répondait dans une session de questions-réponses au Parlement. Et il a expliqué que même si le détroit d'Ormuz rouvrait aujourd'hui, un retour à la normale d'ici n'arriverait pas, un retour à la normale avant 6 mois à 1 an. Il a donné l'exemple de Total Energy. Il dit « Nous avions 11 pétroliers bloqués dans le Golfe par la fermeture du détroit d'Ormuz. Nous en avions 11. On a réussi à en sortir 3. On va tous les sortir. Mais pour les ramener dans le Golfe, on va quand même regarder à deux fois, vérifier que la paix est vraiment installée. Donc, le pétrole n'est pas forcément prêt à couler à flot sur le monde.
Il y a des facteurs contradictoires. Ce qu'on peut voir, c'est que là, actuellement, dans le Golfe Persique, il y a à peu près 160 millions de barils qui attendent d'être sortis. Donc ça fera un effet un peu d'encombrement, peut-être, dans les raffineries. Après, c'est très clair que la production dans les pays de l'OPEP mettra quand même pas mal de temps à revenir à son niveau d'avant-guerre. On estime généralement que ça remettra au moins jusqu'à la fin de l'année. Il faudra au moins attendre jusqu'à la fin de l'année pour avoir un retour de la production des pays de l'OPEP à leur niveau d'avant la guerre.
Et pendant ce temps, les devises. Quand même, l'euro a pas mal, ou le dollar a remonté depuis ses plus bas, largement. On était à l'euro 1,19 il y a quelques semaines. Maintenant, on est à 1,16. Bon, d'après le FT, les investisseurs se ruent sur les paris haussiers sur le dollar. Pourquoi ? Parce que les investisseurs parient sur le retour de l'exceptionnalisme américain.
Moi, j'y crois pas. En fait, ce qu'on peut voir sur les derniers mois, c'est que la parité euro-dollar, il y a là deux déterminants. Il y a les prix du pétrole. Le dollar est très corrélé positivement au dollar. Donc là, actuellement, le fait que le pétrole baisse, ça devrait plutôt faire baisser le dollar. L'autre déterminant, c'est le différentiel de taux d'intérêt entre les États-Unis et puis l'Europe. Et actuellement, enfin sur les derniers jours en tout cas, les taux américains ont peut-être baissé un peu moins que les taux européens. Et ça a finalement freiné le mouvement de remontée de la parité euro-dollar.
Oui, et vous voyez la suite comment? Du coup, c'est toujours difficile de prévoir l'évolution des changes. Mais est-ce que vous estimez que là, on est à peu près sur le niveau d'équilibre entre l'euro et le dollar, ou que l'euro doit poursuivre?
Si on regarde sur plusieurs décennies, finalement, et qu'on fait une sorte de moyenne de long terme, on voit que le dollar finalement est encore au-dessus de sa moyenne de long terme.
Bastien Dru, CPRAM, et donc votre message pour Kevin Warsh, les débuts ce soir seront sans doute compliqués à la tête de la Fed, et sa première conférence de presse à suivre à partir de 20h30. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bastien, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Dans quelques minutes, Culture Bourse, une idée de valeur en plus. Si vous souhaitez compléter vos portefeuilles boursiers, ce sera avec les experts d'Erasmus Gestion qui nous feront découvrir une valeur européenne, selon eux, à fort potentiel. Rendez-vous à 16h10 pour la découvrir.
BFM Bourse, Culture Bourse.
Où vais-je ? Pour savoir où aller en bourse, mieux vaut comprendre déjà où vous en êtes. Votre culture bourse quotidienne. Julie Connerton et son expert vous répondent. Bonjour Julie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Faut venir ici tout simplement. Faut nous écrire si vous avez des questions pour vos portefeuilles. L'adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr et le QR code qui va apparaître sur vos écrans.
Bon, on n'a pas SpaceX, mais on a quand même une fusée française sur les marchés financiers depuis le début de l'année. Le titre s'envole dans les semi-conducteurs, un acteur dont on parle assez souvent.
C'est Julie. Le moins qu'on puisse dire. Hein. Plus 450% depuis le début de l'année. L'incroyable performance de Soitec. Hein. Et c'est bien pour ça que Tony nous a écrit « Pourquoi Soitec monte-t-il si vite ?» Et sans raison, nous demande Tony, faut-il acheter en toute détente ? On va poser la question à notre expert du jour, c'est Mathieu Destouches pour Arkéa M qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Mathieu, comment vous regardez ce titre Soitec avec cette performance incroyable ? Qu'est-ce qui porte autant le titre ? Est-ce que c'est uniquement lié à l'IA ?
Alors non, effectivement, le titre, il ne monte pas sans raison. Il y a deux raisons principales. La première, c'est l'enthousiasme autour de leur technologie de Photonics SOI. C'est une technologie qui permet en fait de la transition des interconnexions électriques vers des interconnexions optiques. Donc ça, ça va servir le très haut débit et la connectivité dans les data centers. Et là, j'ai dit le mot magique, hein, data center, IA. Donc cette technologie, elle a franchi le cap récemment des 100 millions de dollars de chiffre d'affaires avec une croissance supérieure à 30%. Le management a relevé la guidance pour ce produit, avec une croissance annuelle sur les 4 à 5 prochaines années supérieure à 30%. Donc ça, c'est la première raison qui a mené à tant d'enthousiasme. Et la deuxième, elle est plus liée à la gouvernance. On sait que Soitec, ils ont un historique de gouvernance un petit peu mitigé. Là, il y a eu la nomination de Laurent Raymond, qui est un expert de son secteur. Il était chez Infineon, il a passé 15 ans chez STM. Donc il est arrivé en avril, ça a été très bien reçu par le marché. Il va mettre en place un plan en trois étapes, restauration du free cash flow, stabilisation de la croissance et ensuite, dans un plus long terme, une amélioration des marges.
Donc, il y a les data centers, une nouvelle gouvernance. Mais selon vous, d'un point de vue stratégique, est-ce que c'est le moment d'aller sur ce titre ?
Alors, c'est vrai que le titre, il a monté très fortement, comme vous l'avez dit. Il a redonné un petit peu depuis ses plus hauts récemment. C'est une question assez difficile parce qu'aujourd'hui, la thématique, elle est très drivée par le sentiment. Faut pas oublier les business historiques. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA, de Photonics SOI, etc. Mais les deux business historiques qui représentent l'essentiel, quand même, de l'activité de Soitec, sont en difficulté. La première, c'est le RFSOI, qui est destiné aux smartphones. Et là, ils ont publié sur les résultats annuels une décroissance organique de 41%. Donc c'est très compliqué, il y a beaucoup de stock chez les clients, on parle de 16 mois de stock, hein, 2 millions de substrats, et donc c'est très compliqué sur cette activité. Pardon. Et la deuxième activité qui est en difficulté, c'est la division pour l'industrie et l'auto, là pareil, 44% de décroissance organique, le secteur va mal, on l'a vu sur le warning de BMW hier soir. Donc voilà, donc si ces deux segments du business ne retrouvent pas un petit peu de croissance, la Photonics SOI, ça suffira pas. Ça se paye plus de 60 fois le PE28. Donc il faut qu'il y ait une convergence de redressement de ces anciens business, plus la poursuite de la croissance sur ce nouveau business destiné à l'IA.
Mathieu Destouches, qu'on retrouvera dans un instant pour parcourir l'ensemble des gagnants et des perdants de cette séance en Europe. Merci beaucoup Mathieu et merci à Julie Connerton. Culture Bourse, à demain jeudi pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas donc vous tous à nous adresser vos questions et interrogations. Le CAC 40 est quasi stable en ce moment, 8448 points. Et sur bfmbourse.com, cet article consacré à une valeur qu'il ne faut pas rater aujourd'hui, c'est Medincell. Malgré une hausse des redevances liées aux ventes d'Uzedi, bien Medincell creuse ses pertes annuelles et chute de 15% en bourse, et rien que ça, plus de l'analyse et perspective dans cet article. Il est en ligne sur notre site. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.